Histoire, actualité, actualité des expositions liées à l'histoire, actualité des publications d'histoire. Un peu comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Pour commencer, nous recevrons Tassadit Yacine avec Valérie Hanin du magazine L'Histoire à l'occasion de la parution d'un numéro spécial de l'Histoire consacré aux Berbères. Elle est enseignante et elle travaille sur l'histoire de ces mêmes Berbères. Puis dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de l'exposition qui vient d'ouvrir à la Maison Rouge à Paris sur les poupées noires aux États-Unis avec Nora Philippe qui en est la commissaire d'exposition. Catherine Decopé viendra ensuite nous parler dans sa chronique mensuelle La Fabrique de l'eau d'une expression, l'expression sans papier. Et enfin, pour terminer cette émission comme tous les vendredis avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France, nous pourrons écouter un extrait d'un article du Matin de 1897 sur la catastrophe de l'incendie du bazar de la Charité à Paris. Et alors que toute cette semaine, nous avons parlé dans la Fabrique de l'Histoire de l'année 1958 en Algérie, eh bien nous concluons cette semaine, et ça n'a pas de rapport direct, avec la Fabrique mondiale de l'Histoire. Bonjour Valérie Hanin.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez la revue L'Histoire, dont le numéro, un numéro des collections, donc un numéro spécial, est consacré, et encore en kiosque pendant un bon mois, aux Berbères de Saint-Augustin à Zinedine Zidane. Et à cette occasion, nous avons invité pour cette rubrique mensuelle Tassadit Yacine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, vous travaillez à l'École des hautes études en sciences sociales, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous participez, ainsi que bien d'autres, à ce numéro spécial, à cette collection de l'Histoire sur les Berbères. Vous nous présentez Tassadit Yacine?
Alors, avec plaisir. Tassadit Yacine, donc anthropologue, vous venez de le dire, Emmanuel, vous dirigez la revue Awal, la parole qui a été fondée en 1985 par Mouloud Mamri, dont on célèbre ces jours-ci le centenaire, et soutenue par Pierre Bourdieu, qui travaillait, on sait, entre autres, à ses débuts, sur parenté, tradition, chez les Kabyles. Vous-même, vous nous dites dans ce numéro que vous êtes à la fois Kabyle, algérienne et française, et au fond, c'est un peu autour de ça que nous allons tourner avec cette question de la culture berbère.
Alors, cette culture berbère, qui est une culture, disons, qui se représente et qui est souvent marginalisée, en particulier dans les pays du Maghreb, qui préfère ou qui privilégie l'arabe en particulier. Cette culture berbère, vous la connaissez depuis la naissance, en l'occurrence, Tassadit Yacine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez été élevé, vous avez grandi en berbère.
Tout à fait. Donc, la langue berbère a été ma langue maternelle. J'ai grandi, toute mon enfance, on va dire ça comme ça, dans cette culture, avec ses contes, avec ses musiques, avec sa littérature. Donc, pour moi, c'était quelque chose de naturel. Et évidemment, pendant la guerre, puisque c'était ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, vous venez de le dire, il va se passer un trouble, je veux dire, à l'échelle nationale. Et donc, mon village, ma famille, tout ça va être concerné, et c'est comme ça que je me retrouve en ville à apprendre d'abord la confrontation avec la ville, la confrontation avec la langue arabe, donc populaire.
C'est une seconde langue pour vous?
C'est une seconde langue, oui, que j'ai apprise, mais je veux dire à mes dépens. Qu'est-ce que c'est que venir d'un village kabyle, ne parlant que le kabyle, avec d'autres traditions? Donc j'étais un petit peu une brebis galeuse, à l'école et dans ma relation aux autres.
Qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs des kabyles quand ils arrivaient dans une ville arabe comme ça, vous arrivez? Il y avait des préjugés vis-à-vis?
Ah bah oui, on disait, même les kabyles s'appellent Hassan. Hassan, c'est un prénom citadin. Les Kabyles sentent mauvais. Voilà. Donc, et surtout, je le dis dans cet entretien, et surtout, j'ai un prénom qui est très connoté. C'est comme si on s'appelait Marius à Paris. C'est la même chose. Donc, voilà. Ayant porté ce prénom-là, et en plus, je veux dire, ça, j'aime pas bien revenir sur ça, mais il y avait aussi des critères de teint. Hein, le fait d'être un peu plus clair dans un environnement où c'est un peu plus bronzé, on va dire, surtout que c'est dans le sud algérien. Là aussi, il y avait un distinguo. Donc, c'est pas tout à fait des Européens, mais c'est pas tout à fait des autochtones, entre guillemets. Alors, on est quand même un peu bizarre dans le...
Valériane.
Alors, il faut quand même un tout petit peu expliquer qui sont ces Kabyles, c'est-à-dire une branche des peuples berbères. 30 millions à peu près de berbérophones aujourd'hui. C'est une culture très ancienne, hein, puisqu'il y a des écritures rupestres qui remontent à 3000 ans sur les fresques du Tassili, mais c'est une culture qui a été recouverte par toutes les vagues de colonisation, la vague de colonisation romaine, les Arabes, bien sûr, qui imposent l'islam et l'arabe, la langue sacrée, et puis la colonisation française. Alors, dans ce numéro, Armel Boukous nous dit que le mystère, au fond, c'est que cette culture et ces langues, puisque ce sont plusieurs langues, se soient maintenues à travers 2000 ans de domination. Donc, comment expliquer ce maintien? Quels sont les traits spécifiques? Puisque les Berbères, les Kabyles donc, sont musulmans. Ils sont arabophones et ils sont, enfin, en partie arabophones. Vous allez nous expliquer ça. Et ils sont musulmans. Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Qu'est-ce qui fait ce maintien d'une tradition à travers 2000 ans de domination?
Oui, alors donc très très rapidement, la domination a commencé beaucoup plus tôt, déjà avec Carthage. Et c'est comme tous les ports de la Méditerranée, au départ, donc les premières dominations vont s'intéresser aux ports, les ports hein, de l'Afrique du Nord, je veux dire même en France, l'Espagne. Donc ce sont les ports qui vont intéresser les Carthaginois et les ports qui vont intéresser aux premiers... Après les Romains, bien sûr. Donc sur les pas des Carthaginois sont arrivés les Romains. Les Romains qui vont rester quand même 5 siècles. 5 siècles, c'est très important. Donc les ports et puis après les cités, tout ce qui est ville, tout ce qui est en fait on va dire plaine, accessible, sont plus ou moins punicisés, plus ou moins romanisés hein, et latinisés bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on va voir de grands écrivains dont on a parlé, Apulée, Saint-Augustin, qui sont des autochtones mais qui vont apprendre la langue latine puisque c'était celle-là qui était donc la langue officielle, la langue dominante. Et cette situation-là va prévaloir plus ou moins, je dis, plus ou moins jusqu'à l'arrivée des musulmans. Donc, mais entre-temps, bien sûr, il y a eu les Vandales, il y a eu les Byzantins, il y a eu et donc chaque conquête essayer de faire partir la conquête précédente, comme si les autochtones n'étaient pas concernés en fait. Hein. C'est dans un deuxième temps qu'ils vont l'être plus ou moins. Et ce qui va nous poser problème, ça ne sera pas la domination ottomane, par exemple, au XVIe siècle. Là aussi, les Turcs sont passés par là, au XVIe siècle, de 1500 et quelques jusqu'à 1830. Donc là aussi, c'est les ports, c'est les plaines et c'est l'impôt. Donc il faut être très... très clair là-dessus. Mais le problème de langue ne va pas se poser. Le problème de langue généralisée va se poser, en fait, avec le système colonial. C'est avec la colonisation française, donc l'école, le problème de l'école va se poser, et le problème de la reconnaissance de la langue de l'autre, même en la dominant, qui est l'arabe classique, pas l'arabe populaire. Oui. L'arabe populaire, alors ces berbères vont petit à petit, ils vont accepter l'islam.
Expliquez-nous, pardon, Tassadite, vous dites le problème de langue se pose avec la colonisation, on va y venir, mais sont-ils arabisés et en même temps qu'ils sont islamisés? Sont-ils tous arabisés, ces populations autochtones d'Afrique du Nord?
Pas du tout. D'ailleurs, enfin bon, je vais pas rentrer dans les histoires linguistiques, d'ailleurs vous allez me rencontrer deux accents, ce qu'on appelle les accents de guillemets, c'est pas deux façons de parler, les citadins et les ruraux. Les citadins sont les premiers qui vont donc arabiser l'Afrique du Nord, et c'est par les citadins sont très 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 marqués par la langue berbère. Hein. C'est le tchou-tchou-tchou, on va dire ça comme ça. Par contre, l'arabe des hauts plateaux, il est plutôt guttural, et c'est la deuxième vague d'arabisation qui va arriver au XIe siècle avec l'Hilalien. Donc on a des périodes différentes, et donc des arabisations, une forme d'arabisation qui est différente selon les époques. Et alors, cette arabisation va être progressive. Au XVIe siècle, par exemple, au cœur de Rouen, on parlait encore berbère. Mmh. Et voilà. Donc,
peu à peu, une majorité tout de même des populations autochtones de l'Afrique du Nord, ceux qu'on appelle les berbères, ceux que les Romains puis les Arabes vont appeler les berbères, eh bien, une majorité de ces populations vont être arabisées en même temps qu'ils sont islamisés. Mais il y a des réservoirs quand même de langue berbère plutôt dans certaines régions.
Oui.
Par exemple, la Kabylie.
Alors, donc, l'arabisation, encore une fois, il va y avoir l'arabe que l'on apprend, parce que il faut, en tous les cas pour certaines élites, apprendre le Coran. Donc c'est l'arabe.
C'est la langue sacrée.
C'est la langue sacrée, voilà. Et on a ce qu'on appelle l'arabe populaire, Darija. Et cette Darija, en fait, la syntaxe est berbère. La syntaxe est berbère. Il y a un emprunt de vocabulaire. Et vous allez, plus vous allez vers l'ouest, plus ce vocabulaire contient encore des termes berbères. Donc, c'est une arabisation progressive. Et c'est avec l'exode rural, avec la colonisation, qui a fait sauter les verrous et qui a donc créé ce contact de population qui existe comme partout ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Hein.
Et ce maintien, justement, de cette langue, de cette culture berbère, à quoi le doit-on, d'une certaine façon ? C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a une force de résistance à la fois de cette se parler et de ces traditions qui sont liées à cette langue. Comment l'explique-t-on justement cette résistance, cette capacité à traverser les siècles malgré toutes les dominations que vous nous avez montrées en l'occurrence
à Sassanid Yassine. Oui, à mon avis, je l'ai expliqué dans un livre qui s'appelle Le Chacal. Justement, pour moi, l'oralité a été une forme de résistance parce que ce n'est jamais dit. Vous voyez, c'est comme tout ce qui est secret. C'est comme, on va dire, comme la magie dans nos sociétés occidentales et ailleurs. Ça ne se dit pas, mais ça se transmet quand même. Et donc, cette langue est restée préservée dans les déserts, les oasis, dans les montagnes, parce que il y avait une autonomie. Une autonomie jusqu'à l'avènement de la conquête française. Personne n'avait osé pénétrer les cimes du Djurdjura. Pourquoi ? Parce que c'était inaccessible. Et, je veux dire, en vivant dans les montagnes de l'Atlas ou dans le Djurdjura ou dans l'Aurès, eh bien, on avait préservé sa langue, sa culture et son droit coutumier. Ça, c'est très, très, très important. Le droit coutumier, les Berbères l'ont préservé jusqu'à la colonisation française. Et c'est avec la France que les Berbères vont perdre leurs droits. Alors que ils se disaient, ils étaient musulmans. Et ça, c'est une forme, à mon avis, de spécificité, et une forme de résistance, peut-être non dite, mais en tous les cas, qui les caractérise.
Valériana.
Ils sont musulmans avec parfois des formes de dissidence, comme nous le rappelle Julien Loiseau dans ce numéro des collections de l'histoire. Et résistance, oui, vous avez raison, Emmanuel, on a vraiment l'impression que résistance, l'éternel Jugurtha, écrivait Jean Amrouche, la résistance est le maître mot, le mythe force, le mythe structurant de la culture berbère. On va essayer de démêler un petit peu ce qui devrait être faux. Il y a des figures de résistance qui traversent l'histoire, et parfois des femmes, comme la Kaïna.
Oui,
la Kaïna qui résiste,
oui. Fadma Soumar, il y en a d'autres encore.
Oui, la Kaïna qui résiste, enfin qui tient tête 10 ans aux Arabes à la fin du 7e siècle.
Tout à fait.
Avant d'être décapitée, la tête jetée dans un puits. C'est une chef de tribu des Aurès. Là aussi, on est dans une montagne, une forteresse.
Tout à fait.
Et puis, tous ces résistants, le Bacha Gamokrani, les résistants des luttes coloniales. Donc la résistance, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce mythe de la résistance ? Qu'est-ce qu'il y a d'historique ? Est-ce que c'est...
Oui, il y a du vrai dans la mesure où je crois qu'on s'imagine toujours que ce monde berbère est homogène. Imaginez-vous de Siwa jusqu'aux Canaries, même si c'est là, ça aussi, on peut dire.
Donc, l'oasis de Siwa, donc en plein désert égyptien.
Jusqu'aux îles Canaries, par exemple, cette culture s'est maintenue, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait homogénéité. Donc, il y avait, comme avec les Romains, ou même avec les Français, ou même avec les Turcs, des alliances. Mais en tous les cas, ce qui est important, je crois que ils ont très tôt fait cette distinction entre la langue de l'élite, la langue de l'administration et leur langue et leur culture. Et moi, je crois que ils ont préservé ça parce que cette culture est créatrice. Il y a une poésie très, très, très raffinée. Il y a des danses, il y a des chants, il y a des rituels qui, une cosmologie qui les traverse tous. C'est ça qui est important.
Pour revenir sur la question de Valérie Hanin, comment maintient-on une mythologie de résistance alors que on a des collaborations avec les nouveaux envahisseurs à chaque fois qu'ils arrivent?
Oui, alors donc ces liens de dissidence, de trahison ont existé depuis l'époque de Rome. Hein. Jugurtha, ça a été son beau-frère Bocchus qui l'avait dénoncé. En fait, voilà, on sait très bien ça. Donc moi je ne peux vous expliquer une forme de résistance par la culture. Donc voilà, ils vont se rendre compte qu'ils sont différents lorsqu'ils sont dominés, en fait. Donc la première dissidence vient du Maroc, par exemple. Ils vont essayé, c'est eux qui ont cassé en quelque sorte l'Empire d'Orient. Donc ils voudront pas, à un moment donné, se dire, mais d'accord, on est musulmans, on dépend des Omeyyades ou on dépend des Abbasides, mais ça, c'est pas nos coutumes. Voyez, donc quand les gouverneurs vont prélever comme tribu des jeunes filles ou des garçons, mais c'est là qu'il va avoir une révolte populaire en disant, mais ça ne fait pas partie de nos coutumes. Et c'est ça qui est intéressant justement. Voyez, c'est pas au nom de l'ethnie, c'est au nom de la culture qu'on va se soulever.
Valériane.
Oui, au fond, ce que vous nous expliquez, c'est que des histoires de résistance, de dissidence, il y en a dans ce monde d'Afrique du Nord tout au long des 2000 ans d'histoire et plus. Mais la consistance, le mythe de la résistance, avec la complicité quelquefois du colonisateur français notamment, Lyoté ou Charles Duverrier qui parle des seigneurs du désert à propos des Touaregs, ce mythe de la résistance prend consistance avec la colonisation.
Oui,
parce... c'est là que vous l'étudiez parce que effectivement, là il y a une façon d'opposer aussi, peut-être un peu artificiellement, l'arabe et le berbère.
Oui, mais alors, donc, d'abord, là aussi, il y a des périodes, il faut savoir à quelle période on va commencer à les opposer. On va les opposer en Algérie à partir de 1871. Pourquoi ? Parce que c'est Kabyle, ça va être la première grande insurrection populaire. Il y a eu Abdelkader, il y en a eu d'autres. Mais là, vous vous rendez compte ce que c'est que l'insurrection d'El Mokrani qui embrase toute l'Algérie, en fait,
200 000 pendant 3 mois, 200 000 personnes qui se soulèvent et qui tiennent tête aux Français.
Pendant 2 ans,
là. Oui, mais oui. Disons.
Mais de Béjaïa jusque dans le sud, vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'ils vont résister hommes, femmes et enfants. Vous voyez? Et là, c'est contre le colonisateur français. Ça... Mais c'est à partir de cette insurrection qui était énorme, qu'on va se dire, mais finalement, ces Kabyles, ils sont différents des autres. Mais avant, la question ne se posait pas.
C'est ce qu'on a appelé parfois l'invention du mythe berbère, selon vous, Tassalit Yassine.
Pour moi, ça démarre à partir de là.
C'est-à-dire cette idée qu'ils seraient descendants, par exemple, pour certains, on dit qu'ils sont descendants des Romains, etc.
Tout à fait.
Ils sont différents, donc ils sont plus proches de nous, colonisateurs français.
Tout à fait.
Et on va avoir des facilités à les opposer, justement, à ces Arabes qui sont arrivés plus tard.
Et bien sûr, il y a eu cette politique de diviser pour régner, c'est évident, mais c'est à partir de cette résistance, encore une fois, et ils vont, c'est là qu'il va y avoir des femmes qui vont résister, c'est là qu'il va y avoir, donc on va connaître cette population d'intérieur, ce mode de, pas d'organisation, puisque voilà, ils résistaient avec des pioches et des... voilà, mais en tous les cas, des cités, c'est pas simplement la campagne, on parle de campagne, c'est pas des campagnes, c'était des cités comme on peut en voir en Grèce ou à Rome ou ailleurs dans les campagnes.
Ils ne sont pas des villes, mais des cités.
Des cités organisées, avec des assemblées, avec un droit coutumier, avec tout ça, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont redoutables. Il faut absolument aller. Alors donc, moi, cette berbérophilie, j'aimerais bien l'avoir parce que, vous savez que les Kabyles ont payé plus de 5 milliards de francs or à la France pour payer sa dette à l'Allemagne. Alors moi, j'aimerais bien voir cette berbérophilie.
Supposer des Français, c'est ce que vous voulez dire.
Supposer des Français, absolument.
Valériana. Ils ont beaucoup payé, même si Lyoté, par exemple, s'est appuyé au Maroc avec la proposition de maintenir le droit coutumier dans un Tahir berbère
en
1914.
Parce que ils ont commis des actes tout à fait innommables en Algérie. Ils ont cassé toute la tradition algérienne, qu'elle soit berbérophone ou arabophone. Tout a été. Alors donc, ils se sont dit, c'est pas la peine, Lyoté surtout a dit, c'est pas la peine de commettre la même erreur au Maroc. Donc, laissez les structures telles quelles.
Nous sommes dans une série d'émissions que nous faisons depuis maintenant longtemps avec le magazine L'Histoire et avec Valériana, qui s'appelle La Fabrique Mondiale de l'Histoire, pour réfléchir justement à cette mondialisation de l'histoire qui est en cours aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez, en l'occurrence, Tassadit Yassine, que justement ce cas des Kabyles ou des Berbères plus largement est quelque chose qui nous permet de réfléchir à cette mondialisation de l'histoire, qui nous permet justement de dépasser peut-être aussi simplement les histoires nationales telles qu'elles ont été écrites depuis un siècle et demi?
Tout à fait. Alors là, je suis très contente de la question parce que, encore une fois, on regarde l'Afrique du Nord avec un regard, je veux dire, stigmatisant. C'est des Arabes et c'est des musulmans. Et ça s'arrête là, comme si l'islam ne s'arrêtait qu'à l'Afrique du Nord. Alors, on ne veut pas aller voir ce qui se passe en Indonésie, alors qu'il y a plusieurs couches et qu'il y a plusieurs ouvertures et qu'on peut être musulman tout en ayant des pratiques païennes. Et par exemple, je dirige des thèses, donc par exemple aux îles Comores, on peut être il y a le droit positif, il y a le droit coutumier et il y a le droit musulman. Et il y a la matrilinéarité qui existe encore, vous voyez. Et donc l'Afrique du Nord, pourquoi est-ce qu'on veut l'enfermer dans une image d'un islam orthodoxe qui n'a jamais existé? Alors qu'on sait que, même à l'intérieur de l'islam, que ce soit en Afrique du Nord, même que ce soit en Orient, il y a eu des dissidences, il y a eu des schismes, on le sait très bien. Alors, donc c'est ça, un peu, c'est cette image-là. Et à mon avis, donc, il faut revoir autrement notre vision du monde par rapport à cette région. Et la même chose pour les femmes. Donc, on est étonné qu'il y ait des femmes qui agissent sur la scène publique. Il y a plein, il y a énormément de saintes au Maroc qui sont vénérés jusqu'à aujourd'hui. Il y a une sainte d'ailleurs qui ressemble beaucoup à Athéna. C'est la déesse de l'amour et la déesse de la chasse. Et les gens vont la visiter jusqu'à aujourd'hui et qui s'appelle l'Aziza. Alors donc les gens sont étonnés. Ah mais comment ça se fait, c'est en islam? Mais justement, arrêtons de regarder les pays avec une espèce de...
Une seule focale.
Oui, des schèmes qui sont en fait des schèmes, des représentations qui ne sont pas la réalité. Et au jour d'aujourd'hui, parce que il y a eu toutes ces conquêtes qui ont fait que les Berbères n'ont existé que dans les écrits de leurs dominants, ensuite il y a eu la colonisation, ensuite il y a eu les États nationaux qui ont absolument, pas simplement marginalisé, ils ont confiné toute cette histoire dans une espèce de... comment dirais-je, cette histoire était innommable, cette histoire était interdite. On était, nous étions, je m'excuse, je dis nous du coup, je m'implique à l'intérieur, nous étions les innommables, les Tupamaros de l'Afrique du Nord.
Valérie Hanna, à propos de ce numéro sur les Berbères dans l'histoire, et ce numéro des collections de l'histoire, dans lequel écrit et a été interrogé Tassadit Yassine.
Oui, donc vous avez raison Emmanuel, l'intérêt de l'histoire mondiale ou globale, c'est de redonner de la force à ces histoires d'interstices, de passeurs qui étaient souvent assignés à des minorités, à des statuts minoritaires, dans le cadre des histoires nationales, hein, qui sont des cadres très contraints. Alors que là, elles peuvent au fond se redéployer. Et ça redonne force aussi aux histoires de passeurs. Et parmi les passeurs, il y a ces intellectuels, Tassadit Yassine, que vous connaissez si bien, que vous avez si bien étudié, je ne citerai que Jean Amrouche, par exemple, hein, qui sont si nombreux parmi les intellectuels de la colonisation, qui sont si nombreux parmi les Kabyles, qui se sont exprimés dans la langue du colonisateur, qui sont tout de même sous une double domination nationale et, enfin, prénationale et coloniale, et qui vont jouer un rôle ambigu, parfois au point de s'y faire broyer. Alors, Vous les avez étudiés en même temps que vous connaissez bien les contes et les fables animalières, et vous nous dites quelque part, il y a la stratégie du chacal. Qu'est-ce que ça veut dire, Tassadit Yassine?
Je veux dire que c'est une métaphore. À la fois, le chacal a existé dans les contes comme dans toute la Méditerranée et ailleurs, mais aussi c'est une métaphore. Le chacal, c'est un jeu. Le chacal, c'est en fait la couverture du pouvoir. C'est la couverture du roi. D'ailleurs, chez les animaux, le chacal, il sert de manteau. Et donc, il couvre, mais en même temps, ce qui est important, il peut découvrir. Qu'est-ce qui fait la force du pouvoir? C'est la langue, c'est l'intellect, c'est la plume. Et alors, donc, ces intellectuels, justement, pourquoi c'est des Berbères? Il faut quand même qu'on s'interroge. Parce que, en fait, ils n'avaient pas d'autre langue. Ils avaient leur langue maternelle et le français qu'ils vont apprendre sur les bancs de l'école.
Qui est la langue du colonisateur.
Mais la langue du colonisateur, d'accord. Mais simplement, il faut voir ce qu'elle enseigne, cette langue du colonisateur. Mmh. Il y a la colonisation à l'extérieur, mais la langue du colonisateur, incroyable mais vraie, elle apprenait aussi les humanités.
La libération.
La libération, l'égalité des droits, la justice. Et ils vont têter à quelle mamelle? À cette mamelle-là de la France. Celle qui va leur apporter la liberté de la langue. Donc ils vont, les berbérophones, mais il y a aussi de nombreux arabophones qui vont se retrouver complètement embarqués dans cette histoire de l'éco-libératrice. Et ils vont s'y accrocher. Et c'est ça qui va leur permettre, grâce à la langue française, grâce, ils ont fait quand même des études, hein, grâce à la fiction, Amrouche, il est poète, il va fréquenter Gide, les grands hommes de la littérature française, et Mamri, comme il a été dit,
Mouloud Mamri,
donc il est lauréat des quatre jurys, et cette fiction française va leur permettre de revenir sur leur langue maternelle. C'est ça, et c'est pas du tout une compromission, c'est tenir les deux bouts de la culture française. Voyez ? On la combat d'un côté, mais de l'autre côté, on lui demande de rendre des comptes. Et on l'entend aujourd'hui même dans nos banlieues.
Mmh. Il y a par ailleurs effectivement des soulèvements réguliers encore depuis les années 1980 dans l'Algérie que vous connaissez si bien, Tassalit Yassine. Est-ce que, et évidemment il y a des figures très récentes de gens qui ont été assassinés et on pense évidemment à Matoub Lounès dont on célébrera dans quelques jours ou quelques semaines les 20 ans de la disparition de son assassinat en l'occurrence. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, et on conclura peut-être là-dessus avec vous et avec Valérie Hanin, pourquoi il y a toujours ce besoin de reconnaissance, cette volonté de reconnaissance dans un moment où on pourrait penser que les portes se sont entrouvertes et qu'il est plus simple peut-être quand on est kabyle ou quand on est berbère de vouloir affirmer sa langue et son identité.
Oui, alors j'aime bien le mot entrouverte. Effectivement, c'est entrouvert, c'est pas ouvert. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que ce combat, les fondements de ce combat, on a bien parlé de liberté, mais il y a un mot quand même qu'on a évité de prononcer dans cette émission, c'est de démocratie. Donc, ils ont bien compris que cette langue, cette culture...
Ils ont bien, c'est les gouvernements, en l'occurrence des pays en question.
Oui, donc on ne peut pas, si vous voulez, s'épanouir, être soi-même, vivre sans être dans un climat d'égalité, de liberté pour tous, encore une fois, pas simplement pour les Berbères. Donc eux crient plus fort parce que ils subissent toutes les dominations des Algériens, des Marocains, les mêmes. Il y a pas à dire, c'est la même chose. Mais il y a un cran au-dessus qui est donc, on les a tenus par le fait de ne pas reconnaître leur langue et leur culture, c'est tout. Mais simplement, le problème de ces populations, c'est aussi une revendication politique beaucoup plus large.
Valérie Hanin, pour conclure.
Oui, c'est ce que nous rappelle Benjamin Stora, qui montre à quel point les Kabyles, par exemple, ont été nombreux dans les luttes nationales, dans les très hauts rangs des luttes d'émancipation de la guerre d'indépendance algérienne. Mais une figure aussi importante que aussi Naïd Ahmed, par exemple, à partir de 62, entre en dissidence, il sera même condamné à mort et il finira sa vie en exil. Parce qu'au fond, le combat pour l'indépendance nationale, ce qui s'est exprimé dans les crises berbéristes, est un combat inséparable du combat pour le pluralisme, du fait de la berbérité.
La pluralité, l'égalité des sexes, et tout ça, c'était dans les revendications de 1980. Donc tout ça,
du
c'était un tout.
Le réveil berbère.
Oui, et tout ça, et évidemment, dans des régimes comme les régimes nord-africains, tous, hein, en fait, ils sont plus ou moins logés à la même enseigne, avec des différences, bien entendu. C'est un langage qui était insupportable et qui risquait de faire fissurer le système.
Merci beaucoup, Tassadit Yassine, d'avoir été notre invitée donc, pour cette séquence La Fabrique Mondiale de l'Histoire, séquence mensuelle avec vous, Valérie Hanin et Merci. Le magazine L'Histoire. Et je rappelle que l'Histoire, les collections, donc consacrées aux Berbères, de Saint-Augustin à Zinedine Zidane, est encore en kiosque. Il faut le demander parce qu'il a déjà tellement de succès qu'il faut le demander à
Absolument,
vos kiosques.
Absolument, demandez-le.
Voilà, merci beaucoup et au mois prochain.
Merci. Au mois prochain, Emmanuel.
Disons qu'il était une fois une gentille poupée noire vivant heureuse et dans la joie aux îles du matin au soir en jouant sa petite maman noire l'égara dans la bananeraie elle la cacha profondément la retrouver. Disons qu'il était une fois un grand bateau qui l'emporta, cette poupée pleine d'effroi, vers la France qui l'émerveilla. Voilà comment à Paris une enfant aime tendrement.
Bonjour Nora Philippe.
Bonjour Emmanuel Laurent.
Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice, commissaire d'une exposition qui vient d'ouvrir aujourd'hui, qui ouvre aujourd'hui d'ailleurs à la Maison Rouge à Paris, la Fondation Antoine de Galbert. Une exposition dont le titre est anglais, et on va comprendre pourquoi. Black Dolls, la collection Déborah Neff. Alors il s'agit d'une collection de poupées noires, donc rassemblées par Déborah Neff depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, que vous présentez donc à la Maison Rouge. C'est une collection très particulière puisqu'elle rassemble Déborah Neff aux États-Unis, à la fois des poupées du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, mais aussi tout ce qui permettrait, le contexte qui permettrait de comprendre ce qu'est cette production de poupées de chiffon, mais pas simplement de chiffon, noir. Donc, dans le contexte américain, c'est assez compliqué à comprendre d'ailleurs, Nora Philippe.
Oui, c'est un corpus qui est très nouveau. Il y a certaines poupées noires artisanales en tissu qui figurent dans des collections privées, collections publiques aux États-Unis, mais cette collection-là est d'une une ampleur en fait extraordinaire et d'une qualité extraordinaire, et elle a été publiée et montrée pour la première fois aux États-Unis en 2015, et c'est la première fois qu'elle franchit l'Atlantique. De fait, c'est un défi au regard et à la méthode pour les comprendre, et de fait l'exposition en fait se présente à la fois comme un hommage et une enquête. Ce sont des poupées qui sont très peu documentées. Et en fait, pour les comprendre, pour les aborder, il s'agit un peu de faire comme ce que les auteurs présumés des poupées ont fait, c'est-à-dire de composer ensemble, de tisser ensemble, de broder ensemble des sources diverses, des matériaux divers, pour essayer de recomposer en fait l'identité des auteurs, leurs intentions, leurs usages en fait de ces poupées, qui pouvaient parfois être contradictoires avec les contextes de production ou les intentions de leurs auteurs.
Alors parce que les poupées traditionnelles, pourrait-on dire, ou industrielles, sont blanches, donc dans ces États-Unis du milieu du 19e siècle en particulier, et on découvre sur des brocantes, dans des lieux, dans des vides-greniers, etc., progressivement, et c'est ce que va faire Déborah Neff pour sa collection que vous présentez à la Maison Rouge, Nora Philippe, on découvre progressivement qu'il y a une production artisanale, qui n'est pas une production industrielle, tout au long du 19e siècle, de poupées noires.
Oui, ce sont des poupées qui sont en fait en quelque sorte des contre-récits, des contre-représentations dans un contexte où les poupées blanches dominent, qu'elles soient en tissu ou manufacturées, et où il y a une très 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 large production de poupées artisanales comme manufacturées, de poupées noires qui sont racistes, qui véhiculent en fait des représentations stéréotypiques, caricaturales, etc. Et donc en fait ces poupées s'inscrivent contre, à côté en fait de ces représentations dominantes.
Parce qu'elles sont artisanales, parce qu'elles sont faites à la main, parce qu'elles sont au bout du compte unique, chacune d'entre elles.
Betty Sarr, qui est une artiste africaine américaine et activiste également, dont on présente un film autour de l'exposition au Centre Pompidou le 7 mars, a découvert l'exposition, un autre type d'exposition, mais de cette collection à San Diego en 2015, et a dit à la collectionneuse « It's all about love ». En fait, il y a de l'amour en fait, dans ces poupées-là. Et ça, on le voit, on le perçoit, on l'éprouve en fait en les voyant, ces poupées, et en comprenant le soin, en fait. Le soin, c'est un mot très important que j'essayais d'être rayonnant en fait dans l'exposition, le soin avec lequel ont été inventées et fabriquées ces poupées. Donc effectivement dans la couture, dans la broderie, dans ces couches et ces couches de vêtements précieux qui constituent les lingeries ou les robes ou les boutons de nacre, les boutonnières. En fait, il y a énormément de soin et d'amour et de raffinement dans ces poupées.
Parce que ce que l'on croit savoir, d'après les photographies par exemple, c'est que y compris dans des familles noire américaine sortie de la ségrégation ou encore dans la ségrégation, sortie de l'esclavage, eh bien, on a des poupées blanches. Donc, c'est ce qu'on voit sur les photographies, c'est-à-dire des petites filles noires avec des poupées blanches industrielles qui sont vendues aux familles noires comme aux familles blanches, mais en contrebande, pourrait-on dire, on trouve ces poupées noires à la fois dans les bras de petites filles noires, mais également de petites filles blanches, et là, ça commence à se compliquer. Et on n'a pas de documentation, en l'occurrence, historique, qui permette de bien comprendre les usages et pourquoi cette variété d'usages.
Alors, je reviens un instant sur les créatrices de ces poupées avant de venir aux usages. En fait, on peut encore une fois, tisser ensemble toutes sortes de sources qui permettent quand même de comprendre les identités potentielles des auteurs, des autrices. Il y a d'abord en fait une recherche assez fournie et très intéressante qui a été faite ces dernières décennies sur les quilts, sur ces patchwork courtes pointes, mm-hmm. qui sont une magnifique, splendide, extrêmement moderne en fait expression artistique propre propres aux africaines américaines du sud des États-Unis, qui ont donné lieu à des expositions dans les grands musées américains. Et le quilt, dans le quilt, en fait, se manifeste à la fois une vision artistique qui a trait au textile, mais pas que, qui réactive aussi des motifs africains, des codes chromatiques, etc., etc. Ça a été assez étudié, mais aussi en fait une codification politique certainement, qui notamment en fait a été activée pendant l'Underground Railroad. Bon, je ne vais pas détailler là-dessus, mais en tout cas il y a des quilts dans la collection des Deborah Neff, et l'exposition en montre deux, dont un qui est orné d'une main de 1830, qui est orné d'une main brodée sur le côté, qui joue à la fois comme mojo, comme amulette protectrice, mais aussi en fait comme signature. Et donc les quilts, les femmes qui faisaient des quilts, et là c'est documenté dans les archives écrites, publiées même à l'époque, ou dans les témoignages oraux qui ont été constitués par la WPA dans les années 1930, et par les photographies, y compris dans l'exposition. En fait, les femmes qui font des quilts sont celles qui font les poupées. On apprend aux filles, ça se transmet de mère en fille, de grand-mère en fille, ou de tante, etc. On transmet le quilt making avec le doll making. Voilà, donc ça déjà c'est une sorte de matrice.
Donc on a déjà une petite idée de comment ça naît.
Absolument, absolument. Et d'autre part, il y a un autre angle d'approche qui peut paraître très pointu, mais qui est littéralement passionnant, et c'est vraiment le début d'une recherche. C'est la recherche sur les textiles et les costumes. À partir de l'analyse, enfin, d'un point de couture ou d'un type de collerette ou de souliers rouges, eh bien, on va pouvoir déterminer une datation, une localisation, et dire, ça, c'était une manière de se coiffer, de tresser ses cheveux avec des rubans, qui était à la mode en Géorgie en 1895. Madeleine Shaw, qui a publié dans le catalogue, fait une recherche là-dessus et permet d'apporter des éléments de compréhension. Par ailleurs, en plus, vraiment très, 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 très pertinent, parce qu'il y a aussi des statements en fait, stylistiques, des audaces de mode lisibles dans ces poupées qui résonnent beaucoup aujourd'hui.
Alors, il y a quelques auteurs dont on a le nom. Léo Moss, qui est un des rares auteurs cités, dont on puisse dire, voilà, ce sont des poupées de Léo Moss. Alors, Léo Moss, il a travaillé à la fin du XXe siècle du côté de la Géorgie, par exemple. Lui, il fait un travail qui est presque un travail de marionnettiste, de représentation quasi réaliste, et sa femme est à côté de lui et dessine des larmes sur les visages des petites poupées noires qui sont fabriquées par son mari.
Oui, comme de par hasard, quasiment la seule documentation qui nous soit parvenue concerne un auteur homme, Léo Moss, qui effectivement non seulement faisait des poupées blanches le jour pour les vendre et fabriquer des poupées noires la nuit pour son entourage et sa communauté. Et il y a quelque chose de très important et d'assez bouleversant aussi, c'est qu'il inscrivait en fait le prénom et le nom des enfants auxquels il donnait ses poupées sur le ventre ou le dos de la poupée et la date de naissance ou de don de la poupée. Et c'est une autre source très importante pour nous, ce sont les inscriptions que l'on trouve sur certains corps de poupées. Il y en a une notamment qui est importante pour moi et qui est une des plus anciennes qui on y lit en fait 1860, donc 25 décembre 1879 pour William Murray de sa mère Mrs. Herman Murray St. Louis. Et c'est ce genre d'inscription, aussi les journaux du papier journal qui rembourre les poupées, c'est ce genre d'inscription qui nous guide et qui nous permet de comprendre aussi comment en fait ces poupées étaient elles-mêmes des archives, étaient des archives intimes, des constitutions d'archives qui permettaient en fait des continuités mémorielles au sein des familles noires.
Alors il y avait aussi des photographies, il y a des photographies dans cette exposition Black Dolls à la Maison Rouge à Paris, qui vient tout juste d'ouvrir, Nora Philippe, des photographies qui sont rassemblées par Deborah Neff également pour essayer de comprendre justement le contexte d'usage de ces poupées. On les voit dans les bras de petits enfants, des garçons, des filles, et on voit aussi des foires dans lesquelles on expose ce qu'on appelle Negro Fancy Work, donc le travail artisanal, pourrait-on dire, de certaines femmes noires qui sont exposées dans des expositions et photographiées. Et donc on a là aussi une autre façon d'aborder le travail de celles et ceux qui fabriquent ces poupées noires, Nora Philippe.
Beaucoup de ces poupées sont, à mon sens, des œuvres d'art et on doit les regarder comme telles. Après, évidemment, ça pose la question de l'intentionnalité, c'est-à-dire que comment est-ce que les créatrices de ces poupées concevaient leurs gestes. Il y a là aussi des sources absolument passionnantes de créatrices de quilts qui, dans les années 1860-1870, présentent leur travail dans des foires. On a des correspondances où elles disent, elles sont absolument conscientes de la valeur de leur travail textile, de leur
travail artistique. Je veux que ça soit payé plus cher. faire, par
exemple. Absolument. Elles transmettent des exégèses tout à fait développées aux clientes potentielles. Et d'ailleurs, ce sont maintenant, je pense, aux quilts d'Harriet Powers, qui sont maintenant à Boston et au Smithsonian à Washington. Et donc, il est tout à fait légitime de penser que les créatrices des poupées, en tout cas pour certaines, savaient très bien qu'elles étaient là en train de faire œuvre.
Alors, il y a l'exposition très importante qui permet justement de découvrir de façon très inédite ce travail autour des poupées noires et les mystères qui sont liés à ce travail. Parce que vous dites bien, Nora Philippe, que c'est un travail qui débute. Il va falloir mettre des mots, trouver des filiations, comprendre des familles d'artistes, peut-être, d'une certaine façon. Et pour cela, vous accompagnez donc cette exposition d'une série de conférences, de débats qui vont permettre peut-être d'éclairer les choses. La prochaine, c'est lundi avec Patricia Williams et avec Pap Ndiaye.
Absolument, à 19h à Columbia Reed Hall, près de Montparnasse à Paris. Oui, parce que en fait, c'était extrêmement important de faire résonner cette exposition avec des problématiques qui sont encore complètement actuelles. Oui, cela reste extrêmement difficile de trouver des poupées noires aux États-Unis comme en France, qui ne soient pas trop chères, qui soient dignes et belles, qui ne soient pas stéréotypées. C'est en fait c'est une problématique qui est extrêmement contemporaine et c'est une affaire de représentation. Il faut bien voir l'importance en fait par exemple du portrait de Michelle Obama et la manière dont elle a souligné combien c'était important qu'un portrait d'elle puisse figurer en fait et inspirer des petites filles
dans une collection publique américaine.
Voilà, exactement, que c'était vraiment historique. Et de la même manière, c'est un tournant dans l'histoire, enfin la culture populaire, que la sortie par exemple la réalisation et la sortie de Black Panther. Donc on est dans ces problématiques là les problématiques de représentation.
Merci beaucoup Nora Philippe d'être venue exposer justement cette exposition qui commence aujourd'hui à la Maison Rouge à Paris qui s'appelle Black Dolls, mais également on pourra aller voir sur le site de la Maison Rouge et sur le site de la Fabrique de l'Histoire les manifestations qui sont liées à cette exposition qui vient tout juste de commencer. Merci encore.
Merci beaucoup Emmanuel.
Ibélis, conservateur. Homme politique, insoumise, arctique, geek, souffri, paysan, geek, red coast, arc, pétroleuse, souffri. La fabrique de l'autre, Catherine de Coppet.
Bonjour Catherine de Coppet.
Bonjour.
Comme chaque mois dans la fabrique de l'autre, vous explorez l'histoire à travers un mot ou une expression qui désigne un groupe de gens. Et ce mois-ci, alors que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures contre le travail illégal et que le projet de loi pour une immigration maîtrisée a été présenté au Conseil des ministres, c'était mercredi dernier, vous vous intéressez non pas à un mot mais à une expression, l'expression sans papier.
Alors cette catégorie toujours active de nos jours désigne, vous le savez, les personnes étrangères séjournant sur le sol français sans en avoir le droit, autrement dit des étrangers en situation irrégulière. Dans les mémoires, l'expression est intimement liée au mouvement militant pour la régularisation de ces étrangers, on pense notamment aux années 90 avec l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris, mais dans les faits, l'histoire des sans-papiers remonte aux années 70 et même un peu plus tôt. L'immigration et le contrôle des frontières en France s'organisent en particulier à partir de 1945 avec le vote de l'ordonnance sur l'entrée et le séjour des étrangers. À partir de là, certains étrangers sont donc en situation irrégulière. On ne parle pas encore de sans-papiers, mais plutôt d'immigrés clandestins.
Alors la France de l'après-guerre a énormément de besoins de main-d'œuvre et de main-d'œuvre étrangère pour se reconstruire, mais cette période instaure également une relation trouble entre l'État et les travailleurs étrangers, Catherine.
En témoigne l'exemple des Italiens. Entre 1946 et 1954, ils représentent 70% de l'immigration, mais 4 Italiens sur 10 entrent alors en France de façon clandestine, et ce malgré différents accords ou traités d'immigration avec l'Italie. Ce sont des travailleurs seuls ou des familles entières d'ailleurs. Employés principalement dans les mines de charbon, faisant les frais du racisme, les Italiens se retrouvent en effet ballottés par les valses hésitations des gouvernements français et italiens qui font pression l'un sur l'autre pour tirer le plus d'avantages possible de ce transfert de main-d'œuvre. Ce qu'on observe alors, c'est que les autorités françaises s'arrangent aisément de l'immigration clandestine. L'immigration légale est peu efficace en raison des lourdeurs administratives et les patrons français préfèrent choisir leurs employés directement plutôt que de s'en remettre au service de l'Office national de l'immigration. Du coup, beaucoup d'Italiens travaillent sans être déclarés avant d'être régularisés, d'abord au compte-gouttes, puis de façon plus massive à la fin des années 50. Et c'est là un élément très important de l'après-guerre. La situation irrégulière des étrangers ne durait jamais très longtemps. C'était un état de transition.
Oui, ça change évidemment au début des années 70 avec la crise, au moment où la situation économique se dégrade.
Et c'est de cette époque que date l'expression « sans papier ». Les travailleurs illégaux deviennent visibles suite au circulaire Marcelin Fontanet, du nom de deux ministres, qui mettent fin aux régularisations. Mais surtout, ces textes, signés en 1972, conditionnent désormais l'obtention l'obtention d'un titre de séjour pour les étrangers à celle d'un contrat de travail, mettant tous les travailleurs noirs, par exemple, dans une situation administrative très difficile. Les premiers mouvements de grève pour la régularisation fleurissent à cette époque. Arrêt de travail comme à l'usine Margoline de Nanterre, mais aussi grève de la faim au bidonville de Fézin, près de Lyon, habité principalement par des Tunisiens.
Alors ce type de mouvement ressurgira régulièrement, plus ou moins sous la même forme, jusqu'au milieu des années 2000, Catherine, et à partir de là, on observe un durcissement du contrôle de cette population par l'État.
Les sans-papiers constituent, on l'a bien compris, une variable d'ajustement selon la conjoncture économique, mais aussi une réserve utile politiquement. Accepter ponctuellement de régulariser quelques milliers de personnes joue comme la soupape d'une politique d'immigration de plus en plus restrictive, dans un contexte où on se préoccupe d'immigration uniquement à des fins électorales. Au milieu des années 2000, les sans-papiers sont de plus en plus traqués au travail. En vertu du renforcement des obligations des employeurs qui embauchent des étrangers, mais aussi de plus en plus exclus des prestations sociales. C'est aussi l'époque où le pouvoir installe le concept d'immigration choisie, replaçant ainsi le contrat de travail et l'employeur au cœur de la question de la régularisation.
Et du coup, c'est aussi au milieu de la décennie 2000 qu'apparaît dans la langue une autre catégorie, celle de travailleurs sans papiers.
Oui, car jusque-là, le fait que les sans-papiers pouvaient être des travailleurs allait de soi, l'expression remplaçant d'ailleurs celle de travailleurs immigrés, dans le cas des travailleurs immigrés illégaux. En 2007-2008, l'expression « travailleurs sans papiers » prend le dessus avec la série de grèves soutenues en particulier par la CGT qui amène à des régularisations par petits groupes. Ceux qu'on désigne alors comme travailleurs sans papiers sont des salariés qui cotisent aux prestations sociales et payent des impôts, rendant leur situation plus visiblement inacceptable. Et surtout, plus facile à défendre pour les syndicats qui entrent dans la bataille. Or, c'est sur cette catégorie que s'appuieront les quelques régularisations accordées par le gouvernement, car elle exclut tous les autres, travailleurs non déclarés, intérimaires, temps partiel, personnes sans emploi. On voit ici que ce qui était au départ un choix militant pour faire avancer la cause des sans-papiers en les faisant reconnaître comme travailleurs comme les autres, a pu se retourner de façon perverse en créant des catégories au sein même des sans-papiers. Et c'est précisément là l'arbitraire des politiques d'immigration de ces 40 dernières années, distinguer les étrangers en créant toujours plus de critères, de catégories et d'expressions discriminantes. Une impossible sélection qui reste brandie comme levier politique toujours aujourd'hui, où l'on cherche à opposer immigration économique et immigration politique, quitte à écorner sérieusement, entre autres, le droit d'asile.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine de Copé, on peut retrouver votre chronique d'aujourd'hui sur le site donc de France Culture à la page La Fabrique de l'Autre et on se retrouve le mois prochain.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain
en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le matin, 5 mai 1897. La catastrophe du bazar de la Charité. Les 15 dernières années de ce siècle qui va bientôt finir auront été marquées par 3 épouvantables catastrophes dont le douloureux souvenir restera longtemps gravé dans la mémoire des Parisiens. L'Opéra Comique, Saint-Mandé et le bazar de la Charité de la rue Jean Goujon. Hélas, la catastrophe d'hier laisse loin derrière elle les deux précédentes, autant par le nombre que par la qualité des victimes. En quelques minutes, plus de 200 familles les plus aristocratiques de France ont été mises en deuil. On peut dire que tout l'armorial parisien est aujourd'hui atteint par cette catastrophe, la plus imprévue, la plus brutale, la plus impitoyable que nous ayons eu à enregistrer depuis longtemps. Les femmes, les jeunes filles, les enfants forment la majorité des morts. Et l'on ne peut se défendre d'un immense serrement de cœur en songeant que toutes ces infortunées créatures s'étaient rendues rue Jean Goujon pour accomplir un pieux devoir, pour exercer la plus noble fonction sociale qu'il soit donnée aux riches, aux puissants d'accomplir, la charité. La journée avait été des plus fructueuses pour les pauvres. La recette, en effet, s'était élevée à un peu plus de 45 000 francs. Le baron de Macot avait même eu l'idée fort originale d'acheter tous les décors de la vieille rue de Paris, qui constituait l'une des principales attractions de l'exposition du théâtre et de la musique au Palais de l'Industrie, et les boutiques des dames vendeuses étaient encastrées dans des architectures du Moyen-Âge, ce qui augmentait encore le pittoresque du bazar de la Charité. Mais d'autre part, il faut bien reconnaître qu'aucune mesure de précaution n'avait été prise contre l'incendie. Et lorsque le moment d'établir les responsabilités sera venu, il y a des gens qui auront de terribles comptes à rendre. mais n'incriminons personne. Les imprévoyants sont peut-être au nombre des morts. On avait eu surtout la funeste idée d'installer vers la gauche de la construction, un peu en arrière, une petite salle tendue d'étoffes légères et où se donnaient des séances de cinématographe. Un tourniquet était disposé à l'entrée et les séances étaient surtout suivies par les jeunes filles et par les enfants. Encore quelques minutes et la fête commençait sous d'aussi heureux auspices allait se résoudre en un deuil immense. Tout d'abord, où et comment le feu a-t-il éclaté ? Il circule plusieurs versions, mais la seule qui doit être acceptée comme véridique est celle-ci. L'incendie aurait été communiqué à une tenture du plafond par l'un des fils électriques alimentant l'appareil à projection cinématographique. En un clin d'œil, l'incendie se communiqua à l'immense vélum couvrant tout le hall du bazar de la Charité. Et avant même qu'elles eussent eu le temps de prendre leurs précautions pour assurer leur retraite, les 1200 à 1500 personnes qui se trouvaient dans l'édifice avaient au-dessus de leur tête comme une voûte de feu. On se précipita vers la porte centrale qu'on trouva fermée. Plusieurs dames purent sauter par les fenêtres s'ouvrant sur la rue Jean Goujon, mais la plupart des visiteuses cherchèrent une issue pour fuir par les portes latérales. Et ce fut alors une poussée désordonnée, un écrasement furibond, un engorgement, pourrions-nous dire, qui a annihilé l'exode effréné des malheureuses femmes cherchant leur salut au dehors. Et brusquement la toiture s'effondrait, recouvrant les victimes de débris incandescents, écrasant les unes en les brûlant et asphyxiant les autres. Puis le feu achevait de consumer les cadavres amoncelés sous les décombres. Les secours publics sont arrivés assez rapidement, mais à quoi bon ? Les pompes à vapeur n'ont même pas eu à fonctionner, le bazar de la Charité ayant été complètement anéanti en moins d'un quart d'heure. Quelques poutres fumantes restent encore debout. Quelques planches calcinées apparaissent de-ci, de-là, indiquant vaguement l'architecture trop éphémère du bâtiment. Et sur le sol, c'est de la suie. Une suie immonde. Une boue effroyable où des crânes apparaissent, où des corps se devinent, où des entrailles mettent une note abominablement rouge.
Cet article du matin de 1897 sur l'incendie du bazar de la Charité est à retrouver sur le site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Il est lu par Elsa Dupuis dans une réalisation de Séverine Cassard. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'histoire du Japon dans la fabrique de l'histoire. Et l'histoire continue tout de même sur France Culture comme tous les week-ends avec Concordance des temps. Jean-Noël Jeannet recevra demain Olivier Loub autour d'un thème d'actualité, être bachelier.